Attention, attention, le podcast des petites frousses y contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
Bienvenue au podcast Les petites frousses où on parle de phénomènes inexpliqués et de meurtres irrésolus. Et aujourd'hui, spécialement, moi, Catherine, qui n'est pas la professionnelle podcasteuse ni la hôte en chef, je présente mon tout premier cas dans l'histoire des petites frousses.
Hey, je me gère plus. Ooh. Tellement j'ai hâte et que je suis contente!
Alors, on allège la charge de travail de Joannie.
Je prends congé.
Mais je vous jure, là, en fait, qu'est-ce que je devais faire comme mandat à la base, c'était juste faire une petite frousse de course. Fait que faire un mini cas. Mais finalement, je suis partie dans un rabbit hole, le trou du lapin.
Ouais.
Puis c'est parti de fil en aiguille, j'ai monté une affaire. Puis là, c'est un genre, je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est un épisode complet finalement.
C'est super!
Donc, comme mes recherches sont parties du fait que je cherchais juste un petit cas cocasse, un petit quelque chose, ben j'ai trouvé un genre d'article sur un site un peu random qui parlait de plein de cas weird qui s'étaient passés aux États-Unis. Puis là, il y en a un qui a piqué mon attention. Et je suis allée sur l'article en question de Fox News qui date du 10 février 2015. Fait que okay. Ça fait longtemps, mais pas du pire. C'est pas vintage. Puis là, dans le fond, ça part d'une histoire étrange qui a été rapportée, c'est ça, dans les médias en février 2015. Puis c'est la famille Bretzius. Aucune idée si je le prononce bien, mais Brett comme Bretzel, Zius comme Z-I-U-S.
Ah,
tu comprends?
C'est éclairé.
Voilà. Fait que c'est vraiment l'histoire d'une famille ordinaire qui avait aucune idée de ce qui allait se cacher derrière les murs de leur maison de rêve.
Angoisse.
Oui, okay. Quand même. Fait que tu sais, je suis comme, oh, ça pique ma curiosité, je me lance. Donc, la famille Bretzius avait emménagé dans leur maison de rêve à Auburn, en Pennsylvanie, avec l'espoir de ne pas avoir à entreprendre trop des gros travaux. Mais malheureusement, leur tranquillité a été ébranlée en 2012, lorsqu'ils ont décidé d'ajouter de l'isolation à une pièce de leur maison.
Et bateau de Lévis.
Voilà. Donc, au lieu de trouver des murs vides, ils ont été choqués de découvrir que les murs étaient remplis de carcasses d'animaux enveloppés dans d'anciens journaux des années 1930 à 40.
Ah, fait que c'est vieux!
Quand même, hein?
Ouais, fait que des vieilles carcasses pourries, là.
T'sais, ah, genre, ça devait sentir.
Il devait rester probablement juste des os. Là.
Ben oui, c'est ça. Puis ça a l'air que ça sentait, oui, ça sentait un peu le chiard, mais il devait se dire, oh, c'est l'humidité, je sais pas, tu sais.
Moisissure et compagnie.
Ouais, genre, ben ouais. Justement, ils ont trouvé beaucoup de moisissures, puis il y avait de la misère à se débarrasser de l'odeur plus tard, là, je vais vous raconter ça.
On peut comprendre.
C'est ça. Fait qu'avec les carcasses d'animaux, ils ont trouvé aussi des épices et d'autres objets étranges. Que c'était pas super clair, là, mais ouais. Fait que c'était assez étrange comme type d'isolation.
Oui, effectivement.
Là, je vous pourrais prendre des notes comme des petits Sherlock Holmes. Oui. Emportez-vous pas trop parce que ça finit assez... tu sais, c'est pas ça le cœur de mon histoire.
Oh mon Dieu.
Ouais.
Okay.
C'est juste qu'est-ce qui m'a amené vers. Mais je vous la compte, c'est écœurant. Donc, la pauvre mère de famille, Kadia Bretzius, dans le fond, elle était vraiment choquée, horrifiée, dégoûtée. Puis, on commençait à retirer les objets de 2012 jusqu'à 2015.
OK, fait qu'il y en avait en sein, s'il vous plaît?
Oui, fait que ça a été un processus très long et fastidieux. Puis à chaque fois qu'il ouvre un mur, il trouvait des affaires. Fait que, bref, ce qui a étonné davantage la famille, c'est que lorsqu'ils avaient fait inspecter la maison avant de l'acheter en 2011, quand même, ils ont fait leur petit bout de chemin, l'inspecteur n'avait rien trouvé d'anormal.
Hip là, il n'avait pas nié où?
Je veux dire, ça me surprend un peu. Là, il devait avoir des petites... Juste l'odeur.
Ouais, hein?
Juste l'odeur.
Parce que dans le fond, ça sentait même avant qu'il ouvre les murs.
Oui. Ben, tu sais, il n'en parle pas beaucoup au début dans les articles que j'ai trouvés, mais il y en a une fois qui a dit qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de retirer l'odeur et la moisissure. Fait clairement, l'inspecteur, il a comme botché.
Il a ouais, quand même. Ouais.
Tu sais, eux qui espéraient pas trop avoir de rénovation, c'est plate un peu. Là. Ils en ont eu bien pire que ce qu'ils pouvaient imaginer, comme pire scénario.
Exact. Fait que ça leur avait donné l'impression que la maison était en bon état, sans, avec pas de vis cachée ou autre. Là. Ensuite, ils ont décidé d'envoyer les petites carcasses. Les petites carcasses, il y en avait des grosses, j'ai vu des photos, là.
Hey!
Ouais, des genres de crânes d'oiseaux et des enfants de même, là. Hey! C'était sale,
là. C'est lugubre en tas, là.
Ouais, ouais, vraiment, là, tu files pas bien, là. D'envoyer ça à un groupe d'experts dans la ville de Codstown. Et c'est là qu'ils ont fait la découverte déconcertante du pourquoi ces choses étaient dans les murs. C'est là que le trou du lapin est parti.
Ah ouais, OK.
Donc, les experts ont révélé qu'il était probablement lié à une ancienne pratique appelée le pow-wow.
OK.
Le pow-wow.
Pow-wow.
Moi, personnellement, le pow-wow, j'ai toujours pensé que c'était comme dire on fait le pow-wow, on fait le party.
Ah. Oui, parce que c'est une pratique des Premières Nations, non? Oui. Le pow-wow, oui. Ouais.
Exactement. T'es tellement éduqué.
Parce que oui, mais il me semble qu'à Wendake, justement, il y a ça. Ouais, le pow-wow.
C'est un événement.
Oui.
Bon, bien, déjà, moi, j'en avais aucune idée. Bref, mais là, je me suis éduquée. Mais là, j'ai vu qu'il y a deux types de pow-wow.
Oh!
Il y a celui que Joannie vient de mentionner, qui est comme... je vais aller citer mes petites recherches. Bien que l'origine exacte du pow-wow demeure inconnue, ces célébrations sont adoptées et adaptées par diverses communautés autochtones en Amérique du Nord tout au long du 20e siècle. De nos jours, les pow-wow continuent d'être des occasions spéciales pour les communautés autochtones de se réunir... transmettre leurs traditions aux générations futures et partager leur riche patrimoine culturel avec le monde entier.
Okay. Magnifique.
Fait que t'es une belle fête, c'est le fun.
C'est pas des carcasses d'un mur, là.
Non, ça n'a pas de lien, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs... Il y a comme deux types de pow-wow. Clairement, celui des États-Unis, là, dans la région de Pennsylvanie, ils l'appellent le Dutch Magic aussi.
Oh! Magique allemande?
Oui, c'est beaucoup pratiqué par... les personnes qui ont immigré de l'Allemagne en Pennsylvanie. C'est assez niche, là, mais c'est vrai dans ces années-là. Bref. Les professionnels ont dit que c'était du pow-wow ou Dutch magic, une magie folklorique qui était utilisée pour guérir divers maux et problèmes. Une sorte de rituel de sorcellerie qui était autrefois pratiqué par des Pennsylvaniens d'origine allemande, selon les explications de Mme Bredius.
D'accord. Ah.
Donc voilà, dans le fond, ça résume tout ce que je viens de radoter en une phrase.
Oui. La tradition pour guérir les maux et tout, c'était de mettre des carcasses dans les murs ou il y avait genre un autre rituel à part de ça?
C'est que dans le fond, le pow-wow, ça prend plusieurs formes. Puis il y a des guérisseurs, des genres de docteurs pow-wow. Puis de ce que j'ai vu, puis de ce que je vais vous parler plus loin au cours du podcast, il y a plein de façons d'exercer le pow-wow. Puis c'est vraiment comme un petit peu genre des petites chamaneries, là. Tu mets des petits bouts de papier, t'écris des prières, tu les enlaces dans des petites cordes, puis tu mets ça à quelque part, puis gna gna gna. Fait que tu sais, c'est sûr que celle-là, c'était vraiment weird, là, ce qu'ils ont trouvé dans les murs, là. C'est pas ce que j'ai retrouvé en faisant mes recherches.
Pas pratique courante du
parent. Non, non. Peut-être que... c'était aussi des genres d'affaires de sorcellerie, là. Écoute, il y avait l'air d'avoir bien... des croyances dans ce temps-là.
Oui.
Donc, je poursuis. Peut-être que ça va t'éclairer.
Parfait, je t'écoute.
Voilà. La pauvre famille Bredius était assez triste parce qu'en plus, les assurances n'ont rien couvert de leurs dommages, des rénovations et tout ça, parce que quand ils ont pris leur police d'assurance, c'était après avoir découvert.
Non.
Fait que là, c'est comme too bad.
Ouais, c'est clair.
Ouais, puis ça rentre dans quel onglet de la police d'assurance, ça?
Probablement vice caché.
Ah, ouais. Hein? Hey, les anciens propriétaires, j'ai plein de questions. OK, je te laisse continuer.
Bref, cette découverte a eu des conséquences dévastatrices. Non seulement elle a coûté 20 000 $ à la famille pour retirer les objets, mais elle a également engendré des problèmes de santé. La moisissure résultant des éléments a rendu presque tous les membres de la famille malades et l'odeur persistante malgré les efforts pour la dissiper.
Ah, oh, ouais, hein?
Fait que c'est ça. Ça sentait le job.
Oh, ouais, ouais, ouais.
Ouais, on peut imaginer l'odeur, là.
Fait qu'avis à tous, lors d'une visite de maison, si ça pue, investiguer.
Oui, ou changer de maison.
Voilà. Ce qui est plus préoccupant, c'est que la famille n'est pas certaine d'avoir retiré tous les animaux morts de la maison.
Ah, oh, mon Dieu Seigneur.
Ben, tu sais, il n'y a pas moyen de savoir, là. Ça prendrait un genre de rayon X, là. Puis rendu là. Mettre ta maison à terre, on dirait.
Oui, c'est ça, rendu là. Regarde la fondation, puis repart à zéro. Ils n'ont jamais dû plus la revendre non plus.
Ben, c'est ça, l'histoire le dit pas. Je pense qu'ils ont lancé un GoFundMe, si tu veux te savoir, pour aider les gens à
payer, genre, les rénovations et
c'est
tout.
C'est ça. Fait que peut-être que là, ils sont carcasse-free à ce jour, on leur souhaite. pas été capable de trouver autre chose. Là, on dirait qu'après 2015, l'histoire a comme die down.
Ouais, OK, je comprends.
Bref, fait que c'est pas mal ça pour mon histoire. C'est pour ça que je vous empêchais de prendre des notes, là, parce que ça, c'est juste l'histoire qui est allée piquer ma curiosité.
Mais ça n'a pas de bon sens.
Voilà. Hein?
J'ai ben, les anciens propriétaires, est-ce que tu avais de l'information sur eux, genre? Est-ce qu'ils ont poursuivi? Y a-t-il quelque chose?
Non, rien pantoute. Genre, je suis pas capable de trouver rien. Ça a été difficile de trouver des infos sur toutes ces affaires-là. Tu me diras peut-être que je ne suis pas la plus grande recherchiste. Et tu auras raison.
Mais je pense que tu as fait un excellent travail, par contre. Parce
j'ai
que
fait mon possible.
Je comprends pourquoi ta curiosité a été piquée, parce que moi, je capote un peu là.
C'est spécial aussi de... Tu sais, pour qu'il y ait autant de carcasses d'animaux morts, faut que tu les ailles tuer ou trouver ces animaux morts-là.
C'était cœur, hein?
Ah, c'était vraiment une question de rituel. Ouais. Je sais pas quel... Écoute, le Powwow, c'est de Pennsylvanie, c'est comme... comme un livre là-dedans, comme un petit grimoire. Puis là-dedans, il doit y avoir tellement de recettes puis d'affaires. Là. Il doit y avoir un petit chapitre là, sur emballer des petites carcasses pour se protéger.
Probablement. Comme un peu le livre dans lequel il y avait la recette de la main de gloire.
Exactement. Exactement. J'adore la main de gloire.
J'adore la main de gloire.
Vous aurez écouté l'épisode sur Bella dans l'orme.
Oui, dans l'orme blanc.
Voilà.
Si vous ne l'avez pas déjà fait.
Donc, comme vous pouvez le comprendre, j'ai trouvé que c'était très intéressant, mais j'ai essayé de chercher plus de choses sur la maison, justement, qui avait été propriétaire avant, pas capable de rien trouver. T'sais, j'ai vu que c'était vraiment juste une nouvelle qui avait passé une fois, puis plus de son, plus d'image. Fait que là, je me suis rabattue sur essayer de savoir qu'est-ce que le powwow. Et là, je vous en ai parlé déjà un peu. J'ai vu qu'il y avait plusieurs versions, blablabla. Puis là, je me suis dit, ça y est, c'est le powwow Pennsylvanie. Le Dutch Magic, c'est là que je m'en vais.
OK.
Fait que là, en fouillant, j'ai découvert plein de choses. T'sais, je me suis retrouvée à chercher plus sur le powwow en me disant, oh, ça a l'air intéressant. Je veux savoir pourquoi les carcasses. Mais là, en faisant mes recherches, j'ai vu que essentiellement le powwow original, c'est pas une pratique magique. Malgré les croyances, c'est très un stéréotype associé à la magie. Il s'agit plutôt d'une forme de médecine traditionnelle ancrée dans la spiritualité, la foi et la culture des communautés pennsylvaniennes Dutch. Comme je l'ai dit au début du podcast.
Parfait. On nous a fait un petit résumé.
C'est ça. Donc, là, je suis tombée sur une vieille histoire d'une genre malédiction, ça s'appelait genre la malédiction des Ray Mayer. Puis là, je dis, bon, qu'est-ce que c'est cette histoire-là?
Ah!
Puis là, c'est comme le premier, une première histoire de meurtre qui a rapport avec le powwow. Donc, c'est là-dedans que je me suis lancée, finalement.
Il y a eu un meurtre avec eux autres.
Oui, madame.
Dans un rituel?
Kind of.
OK. Hey.
Ouh!
Intriguant.
Bizarre, c'est très bizarre.
Fait que je vais vous présenter mon premier personnage. Là, je tiens à mentionner que comme je suis nouvelle à raconter des histoires de true crime, et j'ai comme tout le temps l'impression que je vais me perdre dans mes personnages, dans mes étapes, puis de comment bien raconter l'histoire. Fait soyez indulgents.
Parfait.
Mais
moi, je suis sûre que tu vas
exceller. Je me suis pris une histoire, justement, premièrement, pas trop épeurante. Parce que si c'est trop épeurant, quand je faisais ça le soir, je dormais pas.
Mais c'est ça.
Fait que là, c'est comme, je sais comme, ah, ça, c'est parfait. Ça a l'air comme pas trop deep, c'est quand même assez léger, c'est mystérieux, j'en ai pas ça. Finalement, j'ai vraiment aimé ça. Ça, ça a été correct. Mais pas trop de personnages.
Pas trop pour te mêler.
C'est ça.
Tu leur as donné des petits surnoms?
Un peu, mais pas trop. Donc, mon personnage principal s'appelle Nelson. Nelson Ray Mayer. En novembre 1928, dans le comté de York, en Pennsylvanie. Puis là, je vous fais un petit résumé de comment ça se passait en Pennsylvanie dans ces années-là. Donc, la ville était prospère. La Grande Dépression n'avait pas encore frappé. Les fermiers s'en sortaient bien et les villageois avaient des sous.
Bon!
Ouais. L'économie était bonne, puis les États-Unis se modernisaient tranquillement, bien rapidement, je dirais. Puis en Pennsylvanie, par contre, il y avait encore beaucoup de petites communautés rurales qui croyaient en les vieilles traditions, là. Fait que spécialement... dans les campagnes « Dutch », qu'on appelait.
OK.
Fait qu'il y avait comme un genre de clash avec la modernité puis les petits campagnards. Vous allez comprendre pourquoi je vous mets ça sur table. Donc, la famille Ray Mayer était originaire de l'Allemagne et ont émigré en 1841 en Amérique du Nord. Il y a d'autres membres de la famille qui ont ensuite immigré, puis ça s'est rapidement agrandi et les Raymayer ont acquis un large terrain de plusieurs hectares qui comportait comme un long creux.
Okay.
De comment je le vois, là, c'est comme un genre de long trou de rivière, mais il n'y a pas d'eau.
Okay.
C'est de même je le vois, mais peut-être que je me trompe. Il n'y avait pas de photo. Avec le temps, les gens sont venus appeler le secteur le Raymayer's Hollow, donc le creux des Raymayer.
Mm-hmm.
Voilà. Puis mon personnage principal, Nelson, est né en octobre 1868. Il vivait seul dans un endroit isolé du creux. C'était un fermier qui cultivait les patates.
Oh, potatoes!
Ouais. Donc jusqu'ici, rien de vraiment de spécial à mentionner. Mais plusieurs personnes dans les environs trouvaient qu'il était plutôt étrange. Les gens le décrivaient un peu comme un ermite, une personne reclue de la société. Mais il semblerait que ses suppositions étaient en fait faux et que notre copain Nelson était un homme sympathique.
Bon!
Ouais. Il était simplement un introverti, comme on dirait en 2024. Il n'y avait aucun problème à vivre isolé dans sa petite maison, quasi non meublée. Ça a l'air qu'il vivait avec le strict minimum, un four, une table, un divan, puis sa petite chambre au deuxième étage. Fait qu'encore une fois, très simple, là, notre monsieur. Il était marié à Alice, une femme 10 ans plus jeune que lui. Puis ils se sont mariés lorsqu'il avait, lui, 28 ans et elle, 18.
Oh, juste à bon âge.
Oui, voilà, c'est légal. Ils ont eu ensemble deux filles, Béatrice et Edna, 4 ans plus vieille, pardon. C'est d'ailleurs le fils de Béatrice, toujours vivant aujourd'hui, qui s'occupe de la maison de Nelson encore à ce jour.
Oh!
Oui. Puis, selon ses dires, Nelson était un homme qui était reconnu pour être extrêmement gentil dans la communauté, le genre qui faisait tout pour aider tout le monde, peu importe que ce soit pour les récoltes ou lorsque quelqu'un était malade.
Oh, 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 oh.
Et c'est là où je m'en vais. Nelson était en fait un adepte de la médecine alternative. Il se disait un genre de guérisseur. Un peu comme le guérisseur de Saint-Urbain.
Qu'est-ce que tu veux dire,
Florence? Excusez, je m'évade.
C'est le guérisseur de Saint-Urbain?
Mon amie Florence, là, est allée voir un guérisseur.
Arrête,
il y en a encore à ce jour, des guérisseurs. Ça a l'air, puis ça a l'air, ça marche.
Non.
Elle me l'a montré, là, il porte un genre de... Il est dans un article de journaux, là, il porte un genre de kit comme Borat.
Oh.
Je te jure. Puis les gens font la file chez lui, encore, là, tout le temps. Là.
Au Québec?
Oui. Puis, il te frôle la peine, puis il guérit les problèmes de tout le monde.
Puis, il a guéri quoi, Florence?
Ben, pas Flo, mais sa copine avec qui il est allé, okay. il a guéri un problème d'épaule, là.
Arrête donc.
Ça a marché. Genre, j'étais choquée, je sais. Fait que, regarde, il y en a qui ont des dons. Moi, j'y crois quand même.
C'est placebo?
Je trouve ça incroyable. Ça me fait vibrer, j'imagine.
C'est dans quelle région, ça?
Attends, je l'ai, là. Je vais vous le dire.
Crime, donne-nous son numéro. On va aller se faire guérir de trois mots.
Alors, on va mettre une petite
des
pause
mots
ici.
De dos ou des mots de ventre?
Des mots d'amour.
Oui, c'est ça. Excusez, j'ai dit Saint-Urbain. C'est pas Saint-Urbain. C'est le guérisseur de Saint-Hilarion.
Oh! Saint-Hilarion.
Oui. Je connais pas ça.
C'est comme plus dans le bout de Charlevoix, là.
Ah, ouais, c'est ce que je m'imaginais aussi.
Puis ça a l'air qu'il y a du monde, genre, qui viennent d'Italie, de France, Japon et même de Chine.
Pour le voir?
Je te jure, ça dit ça dans l'article.
Mais voyons.
Oui. Oui, ça n'a pas de bon sens. Ça a l'air que ça fait la file chez lui, là.
À l'international?
Ouais, puis quand mon ami est allé, il y avait déjà plein de chars dans sa cour, puis il faisait vraiment, il y avait une file, là. Je pense, en plus, elle m'avait expliqué que c'était comme une contribution volontaire que tu donnais ou quelque chose dans le genre.
Ah ouais, fait qu'il n'y a pas de prix fixe.
Genre.
Hein?
Ouais, ben, quand t'étais allée, c'était ça, sa façon de faire, là. Peut-être que ça a changé. Mais là, elle vient de m'écrire Francis Cloutier, qui s'appelait, là, le guérisseur, en passant. Il a l'air d'un homme très doux sur sa petite photo. Il est cute. Mais il est décédé.
Ah! Oh.
71 ans.
Fait il y a longtemps?
Elle m'a envoyé l'avis de décès, je vais vous dire ça. Le 25 août, à l'âge de 71 ans.
Oh!
Cette année.
Ah! Ouais. On l'a manqué de si près!
Ouais. Le Charlevoisien. Mais ça a l'air que ça n'a pas été long et que son ami est arrivé là. Il a fait une petite manœuvre dans le dos. Là. Il n'a pas craqué rien. Là. Puis après ça, c'était correct. Elle se sentait super mieux. Là. Ça faisait longtemps qu'elle avait mal.
Chris, ouais. Avoir su, je me serais sauvée des années de physiothérapie.
Tellement, là. Toi, t'es tellement eu mal, là. T'aurais tellement dû y aller, moi, j'aurais fait le road trip avec toi.
Amen.
Demain matin, là. Ça a l'air que les dons qu'il y avait, le monsieur, c'est qu'il s'était transmis à travers la famille, genre de père en fils. Notre légende locale.
Oh, ça aurait été le fun, on aurait pu l'inviter.
Fait que voilà, pour fermer la parenthèse du guérisseur, il se disait aussi socialiste, donc c'était plutôt rare pour et spécial pour le temps. Donc on commence à comprendre un peu ici pourquoi les gens trouvaient qu'il était controversé, dans le fond.
Qui était hors norme.
Exact. Nelson s'est fait enseigner dès un très jeune âge les principes du powwow. Ce qu'on appelle, comme je l'ai dit précédemment, le German Folk Healing, donc la médecine guérisseur du folklore allemand. Selon M. Christopher Ballardy, auteur et pratiquant du powwow, ça, il y en a encore à ce jour, des powwowers.
Des powwowins.
Le powwow est essentiellement une prière active. Donc, dans la communauté, Nelson était reconnu pour sa pratique, en parenthèse, et plusieurs personnes allaient le voir au même titre qu'on va visiter un docteur. Ouais.
Quand même, hein?
Ben, un peu comme l'affaire de ma copine. C'est fou de se dire que c'était ça, là. On parle de genre 1820, là. Mais là, en 2024, il y a encore du monde qui font ça. Puis ouais. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont des témoignages incroyables.
Ouais, probablement. Comme il y en a d'autres qui doivent avoir exactement l'opposé. Ils se sont fait bullshiter.
Exactement.
Un genre de charlatan.
Ouais, exactement.
D'ailleurs, comme je disais tantôt, dans cette région de la Pennsylvanie, dans les années 1820, il y avait encore beaucoup de personnes qui préféraient ce genre de médecine rituelle slash à la médecine traditionnelle. J'imagine que aussi, on s'entend que la médecine, là, dans le temps, ça devait pas être très élaboré, là. Par contre, la médecine du powwow était un peu comme une médecine parapluie. Ça englobait autant la protection, la détection des mauvais sorts, donc pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Puis avec le temps et la popularité grimpante, il y avait beaucoup de va-et-vient dans le comté des Raymayer. Les gens venaient faire la file pour n'importe quel moment de la journée ou de la nuit pour se faire guérir par Nelson. Les gens de tout âge venaient le voir, les enfants, les personnes âgées, que ce soit pour une coupure ou pour une maladie grave. Éventuellement, le voisinage commençait à se plaindre. Un jour, il y a un de ses voisins qui avait dit qu'il ferait mieux d'arrêter ses chamaneries parce que c'était un pur non-sens à son avis.
Oh, t'es fermé, lui.
On peut comprendre, son avis. Éventuellement, il disait qu'il allait se ramasser dans le pétrin. Et d'ailleurs, sa femme et ses deux filles ont fini par le quitter parce qu'elles étaient plus capables d'endurer, dans le fond, les va-et-vient qui allaient incessants de tous les villageois qui venaient le voir.
Non, je comprends.
Ils sont allés s'installer sur une ferme un peu plus loin. Puis là, fun fact, ça, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Mais le couple était séparé, mais la Madame Alice, elle faisait quand même encore le lavage de M. Nelson.
Elle est vaillante, Alice.
Ouais.
Oh, ouais, hein.
Puis comment il faisait, c'est qu'il droppait un sac de linge sale sur le dessus de la colline. Puis elle allait chercher, elle l'avait. Puis après ça, il se faisait un petit meet-up sur le top de la colline pour lui redonner un petit sac de linge propre.
Colline, il abuse, Nelson.
Non, mais tu sais, là, je veux dire...
Hey, sweet Alice.
Quand même. Fait que dans le documentaire que j'ai écouté pour faire mes recherches, qui s'appelait X-Hollow, on voit un powwow doctor, je sais pas trop comment dire ça.
Comment qu'il se surnomme?
D'aujourd'hui, dans le fond, qui explique que lui, en fait, il fait des prières pour guérir les gens et que le powwow, c'est une pratique catholique, mais que c'est pas tous les catholiques qui appuient. Je peux comprendre.
C'est comme une branche du catholicisme.
Ben, je veux dire, j'en avais jamais entendu parler, là, surtout que là, ça, c'est pas les powwow, comme tu disais au début.
Oui,
là.
C'est ça.
Puis là, il disait que selon lui, les personnes sont simplement fermées d'esprit et comprennent pas la véritable essence.
Bon.
Que c'est pas le guérisseur qui guérit, mais c'est lui qui transmet le pouvoir de Dieu. C'est comme un portail, dans le fond, de prière. Par contre, ils peuvent guérir avec les mains, mais sans toucher le corps directement. Fait que là, ils passent comme par-dessus ta tête, comme s'ils te caressaient, puis là, ils secouent les mauvais sorts. Je l'ai vu faire dans le documentaire, je trouvais ça incroyable.
On mettra un lien.
C'était magnifique.
C'est spécial, hein?
Ouais. Puis là, je trouvais que ça ressemblait un peu à comme, tu sais, réaligner les chakras. Là. Ça avait l'air un peu ésotérique. Ben, ça l'est, là, on s'entend.
Quand même.
Puis, dans le fond, à un moment donné, tu le vois, comme je disais, là, il fait un porte-bonheur pour protéger quelqu'un. Puis là, il écrit une petite prière, puis des petits signes. Puis là, il plie ça, puis il met une petite corde, puis il l'attache, genre, tu t'attaches ça dans ton cou, tu mets ça dans tes poches. Là, c'est très... inoffensif un peu.
Ben, c'est ça que ce serait supposé, là, effectivement.
C'est mignon, tu sais.
Ben, c'est correct de croire à quelque chose. On croit tout un peu à ça, là. Comme aller faire bénir quelque chose.
Ben, exactement, là.
C'est au même titre que ça.
Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui... Ben, ma grand-mère, elle avait une petite photo du Saint-Esprit dans son porte-monnaie.
Moi, on m'avait dit qu'il fallait toujours que je garde une petite médaille de la Sainte Vierge.
Ben voilà.
Quand j'étais malade, ou prier le Saint-Antoine quand on a perdu quelque chose.
Oui, c'est vrai ça.
C'est ça. Mm. C'est un peu la même chose. Il faisait des porte-bonheur et tout, là. Fait que tu sais, c'est comme si c'était bien intentionné. Puis à un moment donné, tu le vois, ça, ça m'a quand même fait un peu rire, là, mais tu sais, vous allez comprendre. Le monsieur, il dit, là, je vais faire comme une potion pour chasser les mauvais esprits, mettons, comme je ferais pour quelqu'un qui vient me voir.
Ça, c'est le monsieur du documentaire.
Ouais. Okay. Le Power Doctor de 2024.
OK.
Mais là, le documentaire date pas de 2024, là, il est plus vieux. Là,
fait, récent.
C'est ça. Mais là, il trempe un petit bâton dans du chocolat fondu.
Ah, mon Dieu.
Il fait un dessert.
Puis il écrit une petite prière dans une assiette. Là, j'étais comme, oh, non, là, c'est pas sérieux, là, le petit chocolat, là. Mais là, il dit qu'en temps normal... Comment il faisait ça? Normalement, il prenait de l'encre là, qui était comme comestible. Fait que là, lui, il s'est dit probablement, prendre du chocolat, ça va être bon. Et tu sais, l'important, c'est la prière. C'est pas le chocolat ou l'encre, OK?
L'activité pour la Saint-Valentin, quoi.
Ça fonctionne. Okay. Oui, ça fait un peu Saint-Valentin. Fait que là, il écrit sa prière. Puis là, après ça, il prend de l'eau. Puis là, il rince l'assiette. Puis il verse l'eau de rinçage, dans le fond, dans un verre.
OK.
Puis ça ressemble à de la petite eau diluée de chocolat. Mais infusé de prière.
Ah, mais c'est...
Puis là, il le remet à la personne, puis la personne peut le boire, puis ça marche ou ça marche pas, qu'il disait.
OK, bon, mais quand ça prend du lait, ça fait un lait au chocolat.
Voilà, ouais. C'est vrai, c'est pas fou ce que tu dis.
Mais j'ai comme aussi pur. L'impression que si tu crois ces affaires-là, ça va peut-être plus fonctionner que si tu crois pas du tout.
Mais comme se faire hypnotiser, là, tu sais.
Oui, ouais, c'est vrai, c'est faut ça. Que tu sois comme un peu ouvert. Là.
Ouais, ouais.
Bref.
C'est ça.
Bref, puis là, il y a une Bible du Power, dans le fond.
Oh.
Qui s'appelle The Long Lost Friend. Je comprends pas trop pourquoi le titre, mais
l'ami perdu, genre.
Ouais, l'ami perdu depuis longtemps, genre.
Ouais.
Ça. Qui est écrit en 1820. Puis l'agent de Bib du Powwow, c'était un manuel que n'importe qui pouvait se procurer. Il y avait comme rien de secret là-dedans. Là. C'était ouvert à tout le monde. Puis il y a un passage qui disait. Qui possède ce livre sera protégé de tout malheur, de tous ennemis, visibles ou invisibles. Quiconque porte ce livre sur lui ne peut pas mourir sans le cadavre sacré de Jésus-Christ, ne peut se noyer dans aucune eau, ne peut brûler dans aucun feu, ne peut subir aucune sentence injuste.
Il me faut ce livre.
C'est ça, tu sais, je me dis, ça devait être monnaie courante de bord avec un gros claim de même au début, là.
C'est vendeur en estime.
Quand même. Hein?
Voilà. Donc voilà. Fait que là, je ferme la petite boucle pour notre mise en scène. Mm-hmm. On a notre monsieur, puis on a comme un bon portrait du Power et du petit livre. C'est là que j'introduis notre deuxième personnage.
Oh!
Qui s'appelle John Blymire.
Oh, c'est comme une variation de Ray Meyer.
Je le sais. Donc, John était décrit comme un homme qui l'avait pas eu facile. Il aurait eu une vie très difficile et remplie de bad luck incessante. D'ailleurs, je me demandais qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie de si triste, mais quand même, le pauvre homme, il aurait perdu ses deux enfants en très jeune âge.
Oh,
donc quand même, là, vraiment pas chanceux.
C'est triste, ça commence mal une nuit.
C'est ça. Il avait supposément un QI plus bas que la moyenne, ce qui faisait de lui un peu l'idiot du village.
Ça va pas bien, hein,
ça va pas bien, là. Il a même été... diagnostiqué en plus de ça avec un trouble mental et a passé quelque temps en institut. Un jour, il a juste tout simplement décidé de partir de l'institut sans avertir les docteurs, puis il est pourvenu. Il a « walk out », comme on dit.
Il a pris la poudre d'escampette.
Voilà, exactement. Puis les troubles mentaux, j'imagine que souvent, à cette époque, ils n'étaient pas vraiment diagnostiqués. Là, t'sais, ça devait pas être très... T'sais, je veux dire, ça devait pas être... encore une fois, la médecine devait pas être très poussée, là. Fait que probablement que ses comportements, ils devaient être assez intenses pour qu'il se ramasse en institut, là.
Mais c'est encore drôle, hein, de ce que j'imagine.
Tu penses que c'était l'inverse?
Ouais, que ça devait être... Tu sais, la moindre affaire que tu fais qui dévie un peu, là, des comportements des autres autour de toi, mais là, t'es tout de suite remarqué, puis tu te ramasses en institut, là. C'est ce que j'imose imaginer.
Mm-hmm. Ouais, ça se peut. Est-ce que tu sais un peu c'était quoi les genres de comportements qu'il peut avoir?
Oui, ben là, c'est ça. Il parlait de comme paranoïa, anxiété puis comportement agressif.
Ouais, l'anxiété, maintenant, c'est tellement courant qu'on dirait que c'est rien pour nous, mais j'imagine que quelqu'un anxieux dans ce temps-là, mettons, qui partait dans des
Ben c'est que j'ai juste... Phase. Moi, je pense que quelqu'un d'anxieux aujourd'hui, des fois, ça paraît juste pas. Ben, c'est que je me dis que lui devait avoir des comportements vraiment intenses pour qu'il
ça
l'amène
être, à... Ça devait être probablement ses comportements... ses paranoïa, dans le fond, là, ses
idées. Ouais.
Puis ses comportements agressifs là, qui ont pu l'emmener là.
Sans doute, ouais. C'est ça je me dis.
Mais c'est une trilogie quand même plate, là.
Mmh. Ouais, pauvre monsieur. Puis, en 1928, il a décidé d'essayer de se prendre en main. Il essayait de trouver un travail. Mais là, il semblerait qu'à ce moment-là, il est un peu devenu obsédé par les sorcières, la sorcellerie, et il se disait victime de malédiction. Donc, on sent que la petite paranoïa a probablement embarqué. Ce qui est fou là-dedans, c'est qu'il était lui-même éduqué sur le powwow et le pratiquait. C'était pas mal la seule chose qui avait du succès dedans. Puis il venait d'une lignée de powwow docteurs.
Oh!
Fait que quand même, tu sais, on dirait que je trouve ça étrange qu'il obsède sur la sorcellerie, les malédictions, alors que lui, supposément, qui est un powwower.
Mais il savait pas?
Oui, il savait. Je vais te raconter une petite anecdote de son pouvoir.
What's that?
Une fois, il est sorti d'un magasin, puis un gros chien sauvage qui a tenté de l'attaquer. Puis il aurait fait une genre d'incantation sur le chien, puis se serait calmé, puis il a été capable de le flatter.
Ah! Oh.
Voilà. Fun fact.
Dans le fond, il y avait une petite boulette de steak haché qui est refilée, hein, qui est tranquillisant.
Peut-être. Bref, tu sais, c'est ça.
Mm-hmm.
Fait qu'il était supposément bon, tu sais. Il y avait la gâchette.
Il y avait le tour.
Ouais. Puis, un jour, notre cher John a décidé d'aller voir la vieille sorcière du village afin qu'elle lui vienne en aide avec sa malédiction. La dite sorcière s'appelait Nellie Knoll.
Nellie Knoll?
Je trouve que c'est un nom très cool.
C'est adéquat.
Ça fait sorcière, quand
ouais,
même.
Ouais, c'est ça.
Elle était communément appelée aussi la sorcière de la rivière Marietta.
Oh! Ooh.
Ça aussi, c'est pas méchant.
C'est juste parfait comme décor.
Ouais.
La rivière Marietta?
Marietta.
Ooh. Puis écoutez bien. C'était une dame de 70 ans, les cheveux blancs avec le nez crochu.
Oh!
Sorcière.
Ouais. Un classique.
Oui, oui.
Ouais. Elle avait toute Nellie Knoll. Blymire allait précisément la voir afin qu'elle lui révèle qui lui avait jeté son mauvais sort, selon ses dires. Puis ici, je fais un petit disclaimer parce que ça va sonner un petit peu fake. Elle lui a demandé un billet de 1$ parce que des services comme ça, ça se paye. Puis quand elle a retiré le billet de la main de John, une photo de Nelson Raymayer serait apparue dans la paume de main de celui-ci.
Ah oh ben, tableau sale.
Exposé. Boum. John a tout de suite reconnu notre ami Nelson. Puis, bon, la sorcière lui a expliqué le protocole pour canceller le mauvais sort. John devait couper une mèche des cheveux de Nelson et ensuite enterrer la mèche 8 pieds sous terre.
OK.
Quand même
simple, mais c'est juste trouver la couette de cheveux qui est plus complexe.
Mais quand même... 8 pieds, c'est profond.
Ben oui.
Par la suite, il devait trouver le livre de sorcellerie, donc le livre de Long Lost Friend, puis le brûler.
OK.
Quand même, c'est plusieurs étapes là, pour en arriver à...
C'est un peu intrusif, la mèche de cheveux puis tout.
Oh ouais. Ça se demande mal, là, aussi.
Donc là, on se retrouve un peu face à une confrontation du powwow contre la sorcellerie, le witchcraft. Selon les professionnels du powwow, la différence entre les deux revient à l'intention de la personne qui use de cette magie.
Mm-hmm.
Donc, le powwow, les intentions se veulent et se doivent être bonnes, genre protéger et guérir, qu'au contraire, la sorcellerie sert de la magie pour jeter comme plus des mauvais sorts puis essentiellement se venger ou causer du mal.
Donc, une espèce de magie blanche versus une magie noire.
Oui, j'adore comment tu l'as expliqué. Encore une fois, selon les professionnels, comme il est possible de faire du bien par la magie, l'inverse est aussi vrai. Donc, les mauvais sorts ou les malédictions peuvent aller d'une petite douleur dans le dos ou carrément quelque chose qui met ta vie en péril.
C'est ordinaire.
Ça peut escalader très rapidement.
Quand même.
Donc, je poursuis avec John, qui finalement un jour décide d'aller voir un jeune homme de 14 ans qui s'appelle aussi John, mais John Curie.
Ah!
Avec lui, je l'appelais Curie.
C'est bon.
14 ans?
14 ans, il est jeune, là. Puis, selon le documentaire, il disait que John Curie, lui aussi, aurait été victime d'un sort de Nelson.
Mon Dieu, Nelson, t'es en feu?
Ouais, mais là, vous allez voir, je pense qu'il y a une petite histoire d'entourloupe qui se passe.
Un complot.
Fait qu'à la base, Curie est un petit garçon de bonne famille, proche de ses parents, puis il y avait un père et une mère aimants, mais malheureusement, son papa est décédé lorsqu'il avait seulement 5 ans.
Ah, oh, pour faire pour.
Sa mère et lui ont déménagé dans le comté de York où elle s'est mise en couple avec un homme qui était violent et alcoolique.
Oh, quel calvaire, ça, par exemple.
Ouais.
Vraiment, ça commence à. On voit où ça se dessine. Fait que le monsieur battait souvent le petit Curie et sa mère. Donc, finalement, en vieillissant, Curie est parti de la maison puis est allé travailler dans un cigar shop aux côtés de John.
OK.
Ouais.
Fait que ce serait comme ça qu'ils se sont connus.
Ouais. À 14 ans, il travaillait dans un cigar shop, quand même, hein?
Ben, tu sais, je veux dire, s'il y avait... Même aujourd'hui, qu'il y ait des enfants qui ne l'ont pas facile, là, des fois, ils peuvent se ramasser, là.
Ouais, tu sais, de toute façon, à 14 ans, de nos jours, tu as le droit de travailler puis tu as le droit de vendre des cigarettes au dépanneur.
C'est sûr. Ben, c'est ça.
Ça le fait.
Exact. Mm. Fait que dans le temps, faut croire que c'est pas si pire. Au moins, il est allé prendre un peu sa vie en main. Puis...
Absolument.
Oui, anyway, ça fumait partout dans ces années-là. Ben,
exact.
C'est prescrit par les docteurs.
Puis comme vous l'avez mentionné, c'est là qu'ils vont devenir amis. Le jeune Curie disait que John l'avait souvent sauvé, qu'il faisait du powwow pour lui puis qu'il aurait comme évité plusieurs malheurs.
OK.
Le petit John Curie s'est un peu fait entourlouper dans les histoires de John Blymeyer.
Le grand John.
Ouais, le grand John. Fait que Curie se sentait comme redevant face à John parce qu'il disait qu'il l'aidait. Fait que voilà, John a fini par convaincre d'embarquer dans son plan d'aller chez Nelson afin de faire lever la malédiction.
John Blymeyer a convaincu John Curie
de l'aider. Ouais. Le grand John a convaincu le petit John.
Je peux dire petit John puis grand John?
Ben oui.
Ça me, si ça dérange personne ici dans la salle. Fait que maintenant, on a deux acolytes dans la mission. Petit John et grand John. Les jours passent, puis... Grand John rencontre une famille qui vivait des difficultés sur une ferme. En effet, il y avait une famille du nom de S-H-E-S-S qui vivait une très mauvaise saison de récolte, puis les animaux étaient malades, puis soudainement, eux aussi semblaient être la cible de malchance. C'était quand même assez étrange vu que les voisins de la famille, eux autres, il y avait des belles récoltes, les animaux n'étaient pas malades, c'était comme vraiment s'il y avait deux hémisphères différents, mais pourtant, ils sont en même temps.
Ouais, OK, je comprends.
Fait que là, il commençait vraiment à avoir des soupçons que c'était possible d'avoir été victime d'un mauvais sort. Puis c'est là que Grand John leur raconte que c'est probablement le cas. Puis là, Grand John, dans le fond, là, un petit manipulateur.
On dirait, hein?
Mm-hmm, il était pas pire.
C'est comme sectaire, son affaire.
Fait que là, il embarque, puis là, il leur fait part de son plan pour lever sa propre malédiction. Fait que là, il leur jette une petite graine dans la tête qu'eux autres aussi, probablement... victimes de malédiction.
Ouais.
Probablement qu'eux autres aussi vont devoir se prendre en main. Bref. Au fil des jours et des discussions, la rage monte entre petit John et grand John qui sentent que là, c'est le temps d'agir.
Ah ouais, ils se craquent, là.
Ils se craquent. Puis là, on est le 26 novembre. Grand John et petit John font une première visite chez Nelson. Puis cette fois, c'est un des membres de la famille S, la famille qui vivait des mauvaises récoltes, qui va les reconduire dans le Ray Mayer's Hollow que je vous ai parlé au début.
Ouais, le creux.
Le creux. Puis là, nos deux amis s'arrêtent en premier chez la femme de Nelson, qui leur mentionne qu'il n'est pas là puis qu'il doit sûrement être chez eux, puisqu'on se rappelle qu'ils sont séparés, ils ont deux maisons, qui est à peine un kilomètre. Fait que là, ils se dirigent chez Nelson, cognent à la porte de celui-ci, et c'est là que Nelson, du haut de son 6 pieds, ouvre la porte. Nelson, 6 pieds quand même. Pas un petit homme. Fait que là, il les accueille gentiment, il les considère comme des amis, puis il leur offre même un petit verre dans le salon. Ils ont des discussions, ça va bien, la soirée est enflammée. Puis là, ils parlent de l'agriculture, ils parlent des powwow, les petits ragots du village, bref, comme des bons
chums. Ils connectent, là.
Ouais, ouais. Vraiment, là, je suis comme, waouh, ça a l'air le fun. C'est une belle histoire.
Oui.
Puis là, ils ont jasé quand même vraiment longtemps, jusqu'à tard. Puis Nelson les a invités à dormir chez lui. Fait que là, ils ont accepté.
Dès qu'il est généreux, mais ça va virer mal, hein?
Ça pue. Ça pue. Fait que là, ça pue, mais rien d'anormal.
Pour l'instant, on dirait que c'est des belles amitiés qui se développent.
C'est quand même étrange hein, que le petit John Curie soit allé là avec deux... C'est comme deux messieurs?
Oui.
C'est quand même étrange, là, qu'ils se traînent avec eux.
Mais pour nous, mais je pense qu'à cette époque-là, ils étaient collègues. C'est quand même bizarre,
mais
t'sais.
Mettons, il y a 14 ans, puis... On ne sait pas exactement, là, mettons, ils ont quel âge les deux autres, mais c'est deux personnes qui sont majeures quand même.
J'ai lu à une place que Nelson avait quand même 60.
Ben, c'est en 1968, Puis c'est en 1928. En 1868 qu'il est né. Puis là, on est en 1928. Ouais, ça ressemble à ça.
Voilà, ça ressemble à ça. Quelques sont bons. Fait que Nelson, 60 ans.
C'est ce que j'ai bien écrit.
Petit John Curie, 14.
Ouais, il n'y a comme pas trop... pas d'affaire là.
Mais tu sais, il devait connecter avec Blymeyer. Lui, il était plus comme dans la trentaine.
Ouais, grand John.
Ouais, grand John. Le lendemain matin, Petit John et Grand John retournent dans le village et discutent de leur plan. Fait que clairement ici, le plan est toujours d'actualité.
Ah, ça les a pas en fait changé d'idée. Non. Passé une belle nuitée.
Moi, j'aurais cru que ça les aurait fait bien là. Tu sais, John, il est fin, fait que finalement...
Ouais, il y a pas de malice.
Tu sais, on laisse tomber. C'est sûr, c'est pas lui. Tu sais?
Il aurait dû en profiter cette nuit-là pour couper la mèche de cheveux à Nelson.
Mais oui! Mais
écoute, c'est que là, ils se sont rendus compte qu'il était beaucoup trop costaud pour deux. Parce que là, eux autres, là, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils l'attaquent pour voler la mèche.
OK, il y a eu comme s'il n'y avait pas d'autre moyen.
Puis ils se sont dit qu'il était beaucoup trop costaud puis qu'il allait avoir besoin d'aide.
Ah! Puis que là, ils recrutent.
Je sais, ça regarde pas bien. Puis là, ils convainquent alors la famille S, la famille qui a des mauvaises récoltes, de leur venir en aide. Et c'est là que les parents de la famille proposent que leur fils Wilbert se joigne aux deux hommes. Pauvre Wilbert, quand même. C'est donc là, sous la bénédiction de ses parents, que Wilbert a congé de la ferme pour aller briser la malédiction.
Ooh.
Ouais, fait quand même. On arrive donc deux jours plus tard, le 28 novembre. Les trois hommes sont conduits encore une fois par un des membres de la famille S dans le Raymeyer's Hollow. Cette fois, il est environ 11h30.
Le soir?
Ouais, qui est tard, là.
Quand même, hein?
Le trio cogne à la porte de Nelson. Nelson est déjà au lit, mais il n'est pas trop surpris parce qu'on se rappelle que quand même, c'était chose courante que les gens viennent chez lui à n'importe quelle heure pour ses services de docteur.
C'est vrai.
Nelson ouvre la fenêtre de sa chambre au deuxième étage puis demande « Mais qui va là? » Grand John se présente et prétend avoir oublié quelque chose lors de sa dernière visite. Fait que Nelson descend pour ouvrir la porte. Puis là, les hommes commencent à faire le tour et à chercher. Rapidement, John dit... Petit John dit « Où est votre livre? » Puis là, Nelson dit « Mais de quel livre tu parles? » Puis là, il dit « Il est où le livre? » Puis là, il commence. Oh,
ça craque encore.
Ça monte en vrille. Puis là, il dit « Oui, je sais de quoi tu parles. J'ai besoin d'une mèche de tes cheveux. » Fait que là, clairement, le petit John, là, il perd son sang-froid puis il explose.
Il expose le plan au grand jour.
Exactement. Mm-hmm. Donc, rapidement, ça escalade, pas le temps de niaiser, on tourne pas autour du pot, on veut la mèche. Puis à ce moment-là, c'est comme pas trop clair dans la scène qu'est-ce qui se déroule, mais Nelson serait comme rendu à la cuisine, puis il serait de dos. Puis là, le grand John dit à ses acolytes, « Prenez-le! » Puis là, le petit John le ramasse, les deux autres arrivent, puis là, c'est là qu'il attaque Nelson.
Oh!
Ouais. Puis là, ça se déroule quand même une très violente altercation qui s'intensifie très rapidement. Puis, Grand John ramasse une chaise dans la cuisine, puis fracasse sur le dos de Nelson.
Comme d'un vu.
Exactement. Fait que là, et après ça, il y a le petit John qui ramasse une bûche, puis qui l'assomme.
Ah.
Fait que là, c'est quand même très violent. Là. Quand même. Tout ça part d'une mèche de cheveux.
Oui, mais en même temps, mais pas, je prends pas la part aucunement. Ce que je veux dire, c'est que là, il faut comme trois mèches, parce qu'il y a trois malédictions différentes à différentes personnes.
T'as raison.
Fait qu'il fallait beaucoup de cheveux. Je pensais aussi qu'elle craquait l'attaque.
Ben, j'aimais dit ça, la sorcière.
Ben là, il y a une malédiction sur John Blymeyer, une malédiction sur la famille aux mauvaises récoltes, puis une malédiction sur petit John Curry.
Mais peut-être que, en même temps, elle dit ramasse une mèche de ses cheveux puis brûle le livre. Peut-être, ça va lever la malédiction. Mais peut-être que ça va lever toutes les malédictions.
Peut-être.
Parce que le livre est brûlé.
Ouais.
Bref. C'est une très bonne question.
Girl.
Fait que là, ça se déroule très vite, c'est très violent. Puis Nelson, il a reçu un gros coup à la tête. Donc, il y a une énorme hémorragie. Puis, il est rendu immobile au sol.
Oh!
Puis là, pour ajouter une couche, que je comprends pas vraiment, ils ont décidé d'attacher ses mains et ses pieds. Comme je le dis, là, ils ont juste besoin d'une mèche de cheveux. Là. L'homme est déjà par terre, puis il saigne.
Ouais, ils vont trop loin, là.
Vraiment. Il ajoute même une corde à son cou pour tenter de l'étrangler.
Mais voyons.
Ah, ben là.
Ben, c'est, ça vire.
Ça charme, là.
Clairement, je pense qu'il avait peut-être prévu plus un meurtre que d'autres choses, là. Un instant plus tard, les garçons pensent que Nelson est mort, donc la malédiction sera levée. On se rappelle que c'était pas ça, la consigne.
Oui, c'est ça. Ils ont pas écouté.
Puis là, ils commencent non seulement à épier la maison de Nelson, mais là, ils arrachent ses escaliers, ils font le tour parce qu'ils ont entendu dire qu'il cachait des biens en dessous de ses marches. Fait que là, vraiment, ils foutent le bordel. Ça part d'un genre de... Ça devient un genre de meurtre et vol.
Ouais, une espèce de gros saccage.
Ouais, une vengeance, là.
Fait que les intentions de départ commencent vraiment à prendre le bord, puis c'est pas très beau. Après le vol, ils décident de mettre feu à la propriété afin d'effacer toutes les traces de leur passage.
Avec Nelson dedans. Nelson dans la maison. Hein?
Oui, ben t'sais, ils veulent pas se faire pogner. C'est sûr que la médecine...
Ah ouais, l'autopsie.
L'autopsie, tout de suite, ça devait pas être très élaboré.
Ils
ne
pas faire de grosses autopsies.
Mais moi, je me disais, à la base, il fallait qu'ils brûlent le livre. Fait que s'ils n'ont pas trouvé le livre, OK, peut-être c'est pour ça qu'ils veulent mettre le feu à la maison.
Mais aussi cacher le fait qu'ils ont attaqué, peut-être même tué Nelson dans la maison. C'est ça.
Mais ils n'ont pas plus les messes de cheveux.
C'est ça, là. Ça a vraiment... je pense qu'ils sont partis en transe.
Ils ont dérapé.
Ils ont vraiment dérapé. Fait qu'ils répandent de l'huile autour du corps puis à travers la maison, puis ils lancent une allumette dans la scène puis tout s'enflamme.
Ah.
Mmh.
Voilà. Fait qu'une fois dehors, les hommes prennent la fuite, mais il y en a un qui, en se retournant, est sûr d'avoir vu Nelson debout à travers les flammes dans la maison.
Oh my God, c'est creepy!
Fait que, supposément qu'il n'aurait pas été encore mort.
Je vois l'image.
Ouais, moi aussi.
Quand même, hein? Ensuite, pour une raison, on va dire inexpliquée, le feu s'éteint. Et la propriété ne brûlera pas.
Oh!
Oui, madame. Mais là, je passe, chloup, au lendemain, 29 novembre. Un voisin s'approche de la ferme de Nelson parce que les animaux font beaucoup de bruit et sont agités. Ensuite, il y a le facteur qui mentionne que Nelson n'a pas pris son courrier depuis quelques jours puis que quelqu'un devrait aller vérifier. C'est donc deux voisins qui se rendent ensemble chez Nelson pour prendre de ses nouvelles. Puis là, ils cognent, toc, 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 pas de réponse. Fait que là, il décide d'ouvrir la porte qui n'est pas barrée, puis il voit carrément Nelson brûlé sur le sol. La maison est encore remplie de fumée, puis les murs sont complètement noirs.
Oh!
Ils prennent la poudre d'escampette, là, ils ont eu peur, ils sautent sur le cheval, puis ils se dirigent directement chez la pauvre Alice, la femme de Nelson, pour lui apprendre la mauvaise nouvelle. Tout le village est sous le choc, là. Le pauvre Power Doctor a été assassiné. Ça a dû créer un émoi. Les funérailles ont lieu le 5 décembre et l'église est pleine. Ça débordait jusque dans la rue. Puis ça a l'air que la cérémonie s'est déroulée les fenêtres ouvertes pour que les personnes à l'extérieur puissent l'entendre.
Oh, wow! Hein?
C'est beau.
Quand même, hein? Fait que c'était vraiment du jamais vu, un très gros rassemblement. Fait que là, immédiatement après la cérémonie, la femme de Nelson, Alice, elle s'en va voir la police. Puis elle leur dit qu'il y a trois garçons qui sont venus cogner chez eux quelques jours avant. Puis que c'était un peu louche, ils cherchaient Nelson.
Mm-hmm.
La police s'en va, commence l'enquête, puis commence directement par Petit John et Grand John. Puis ils les interrogent sur le meurtre. Puis étonnamment, les deux hommes se livrent sur le champ. Puis là, ils expliquent, le plus simplement du monde, là, que Nelson leur avait jeté un sort et qu'il avait dû le tuer pour le libérer.
Bye bye.
Déjà ça, là, c'est ils ont le Petit John?
Petit John et Grand John.
OK.
Les deux.
Mais Wilbert, il ne s'est pas confessé encore.
Wilbert, il ne s'est pas encore confessé. Il n'y avait aucun remords sur leur visage, là. Tu sais, pour eux, c'était normal, de un. Puis de deux, c'est pas du tout ça, là, que la sorcière leur avait dit de faire.
Pas tout.
Tu sais, ça fait pas de sens. Grosse confesse, les trois hommes se ramassent rapidement en prison. Fait que dans le fond, le petit Wilbert, il a été embarqué parce qu'il n'a pas eu le choix de dire qu'il était là aussi.
Ouais, oui, oui. Les deux autres ont stoulé.
C'est ça. Fait que là, le procès débute, puis l'avocat de Grand John décide qu'il fera passer le cas pour un vol qui a mal tourné. Le plan était de ne pas mentionner en aucun cas l'histoire de malédiction puis de sorcellerie. C'est un membre de la famille S, la famille des mauvaises récoltes, je le rappelle, qui, lors d'un témoignage, parle carrément de la magie puis de l'affaire des sorcières, là. Fait que là, l'avocat de Grand John décide, tu sais, il va, ben, ah, regarde, il m'a plaidé la folie. Mais en même temps, je comprends pas pourquoi il a pas commencé par ça.
Ouais, tant qu'à faire.
Tant qu'à faire. Il disait que Grand John vivait une vie extrêmement tumultueuse puis qu'il avait aucune idée de que ce qu'il avait fait était mal. Mais quand même, il a été accusé de meurtre au premier degré puis prison à vie.
Oh.
Ensuite, John Curie, Petit John, lui, avait un jury différent puis il croyait pas vraiment à l'histoire de la sorcellerie. Donc, ils ont jugé Petit John... qui avait été victime, dans le fond, de sa mère et du manque de ressources.
OK.
Fait que lui, il y a eu comme une moins grosse sentence, mais il était clairement mal entouré, pauvre petit garçon. Fait que oui, j'avoue, là, il s'est fait entourlouper. Puis à 14 ans, j'avoue que d'avoir une... T'sais, il y a quand même eu une sentence qui était très similaire à celle de Grand John, là, meurtre au premier degré, puis ils l'ont mis quand même en prison à vie, finalement.
Ah oh, ouais.
Ouais.
14 ans.
14 ans dans le temps, tu sais.
Il avait fait manipuler.
Puis finalement vient le procès de Wilbert S., qui a reçu un verdict de meurtre au second degré et 10 ans de prison.
Oh, il a eu légère, parce que c'est le dernier à avoir embarqué dans le plan.
Ouais, mais ben c'est ça. Mais c'est sa famille qui l'a envoyé. C'était ça qui a fait que ça a pesé dans la balance. Lui, il ne voulait pas aller là.
T'sais. Ouais, pas nécessairement. Puis sa famille a tué de quoi?
Non, ça. Ils disent que, selon le juge, il serait la genre de brebis qui se serait sacrifié pour sa famille.
Oh, ben c'est un peu vrai.
Ben oui.
Il y a quand même un beau 10 ans de prison qui va passer au complet.
OK.
Grand John passe 23 ans en prison, finalement, et sort en avril 1953. Puis selon un membre de sa famille qui serait allé le visiter à sa sortie, il disait que John Blymire, Grand John, referait la même chose demain matin.
Ah, il n'y avait aucun remords, même après sa sentence.
Ouais, il disait que selon lui, il n'y avait aucun changement chez l'homme, puis que c'était impossible que... Dans le fond, c'était pas une bonne personne. Il était...
fondamentalement...
vilain.
Ouais.
Quand même, hein? Bref, notre grand John meurt d'une pneumonie en 1972. Puis c'est sa famille... personne ne serait venu à ses funérailles.
Ah ouais.
Puis il y aurait même, possiblement, là, dans le documentaire, ils disent qu'il serait possiblement aussi responsable d'un autre meurtre.
Ah!
Ouais. D'une jeune fille.
Oh, là, ouais, il dérapait, là.
Ils n'ont pas de preuves, mais ils disent à 90
%. Gros soupçon. Est-ce que tu sais les circonstances du meurtre de la jeune fille?
Oui, c'était comme une jeune fille qui a ramené sur une raille de chemin de fer. Puis il a retiré une balle.
Hein?
Ouais.
OK, c'est gratuit, là. Ça n'a plus rapport avec je veux laisser ma malédiction.
Possiblement, genre, il disait qu'il l'aurait peut-être mis enceinte, puis des avant de même. Là. C'était pas... Tu sais, c'était pas clair, puis on en parlait un petit peu dans le docu, mais c'était pas... Ça avait pas l'air super fondé, là, fait que là...
C'était pas le sujet principal du documentaire.
Non, c'est ça. Mm-hmm. Mais, tu sais, ça m'a quand même... Je me suis dit, c'était un bon crotté, dans le fond. Fait que voilà. Puis le petit John Currie, il a eu droit à parole après 10 ans, puis il est sorti de prison pour aller rejoindre l'armée. Fait que contrairement à grand John Blymire, les amis qui s'est fait après son passage en prison le décrivent vraiment comme quelqu'un qui jamais aujourd'hui pourrait être capable de faire une telle chose. Ils ont de la difficulté à croire que cet homme-là a déjà été impliqué dans quelque chose d'aussi sordide.
Ouais. Ben oui. Mais j'ai l'impression que justement, petit John Currie, il n'y avait pas de figure paternelle, il a perdu son père, son beau-père le battait, fait qu'il a trouvé une espèce de figure paternelle auprès de grand John. Puis il l'a entourloupé dans ses histoires, ben oui. Puis il a fait confiance.
Négligence, maltraitance.
Ouais,
c'est facilement influençable, une petite aliénation.
Ouais.
Mais il était influencé, là.
Je veux dire, quand même, il y a quelque chose dans moi qui me dit qu'il a quand même été capable d'assommer quelqu'un avec une bûche puis de sacrer le feu. Là.
Ouais.
Ouais. T'sais, ça a l'air là, que dans le documentaire, les gens disaient que genre c'était vraiment une bonne personne puis qu'il ferait jamais de mal à une mouche classique, là. Mais tu sais, il me dit qu'il doit pas bien vivre, là. Il doit avoir des petits démons, cet homme-là. Je dis pas qu'il referait ça puis qu'il était pas bon puis tout, mais je me disais que quand même de vivre toute sa vie avec ça, ça doit rendre fou un peu.
Ouais, c'est un lourd fardeau, là, sur ses épaules, puis les regrets, puis la honte, puis ce que tu vis en prison, puis tout. T'sais, ça, son passé excuse pas son geste.
Puis vivre en prison quand t'es mineur, c'est quand même...
Mm-hmm. Il est sorti, dans le fond, il est rentré à 14, il est sorti à 24.
Mais c'est quand même pas si pire.
Puis boum, il est allé dans l'armée, il est allé se mettre douette.
Ouais, vraiment. Ça lui donnait l'encadrement qu'il avait pas.
Puis ça, rappelle-moi, c'est quoi l'année qu'il est sorti de... Ben, qu'il est sorti de prison? On sait-tu?
10 ans après.
1938.
Fait qu'il est sorti, c'est ça, il est sorti en 1938. Il va être pas mal sa fin ou décédé, là.
Ouais.
Ben, regarde, il meurt d'une crise cardiaque à 49 ans.
Ah, mon Dieu. Pauvre lui.
Il est mort jeune, quand même. Ouais. Mais probablement que, c'est ça, comme on disait, le vivre avec un fardeau de même. Ça use.
Ouais.
Ça use. Puis, il y a notre troisième acolyte, Wilbert, qui passe, lui, ses 10 ans de prison complète. Sa sentence au complet. Puis, il se marie, lui, puis il va avoir deux enfants.
Bon.
Il tente vraiment de vivre une vie simple, loin des ragots. Puis, les personnes qui l'entourent le décrivent comme un homme très, très, très doux.
OK.
Puis, lui, il a plus tendance à comme il disait qu'il avait plus tendance à vouloir être un low profile, puis il a honte, là, clairement. Tu vois qu'il s'est fait embarquer dans quelque chose puis qu'il n'en est pas fier.
C'est terrible.
Fait que, comme quoi les deux garçons qui se sont fait entourlouper dans l'histoire auraient pu mener probablement des vies complètement normales s'ils n'avaient pas rencontré le grand John Blymire.
Absolument. Ils se sont fait avoir par un manipulateur avec beaucoup de charisme probablement, qui souffrait de troubles mentaux.
Mm-hmm.
Il était parti dans son délire.
Exact.
Puis ils se sont fait avoir, là.
Il a quand même convaincu deux parents d'envoyer un fils.
Ouais.
Mais en même temps, il les a convaincus. Mais est-ce qu'il leur a dit que le plan, c'était de tuer?
Non, je pense pas. Il devait pas savoir. Le plan, c'est de prendre une couette de cheveux. Puis sûrement que le petit Boulbert s'est fait dire on va l'attaquer ou l'altercation a commencé. Puis là, c'est il ça. Était comme qu'est-ce que je fais? OK, je vais le faire.
Il y a comme cette partie-là que je trouve qui est floue, mais bon, j'ai cherché partout. Puis je trouve.
Ouais.
Pourquoi le plan a passé de A à B rapidement, je sais pas trop.
Puis de toute manière, on a trois personnes qui nous racontent qu'est-ce qui s'est passé. Puis ça s'est peut-être passé super différemment. Peut-être qu'ils se sont jetés à balle. Puis.
Ouais, c'est ça.
Bref. Pas Nelson qui a pu le raconter, qu'est-ce qui s'est véritablement passé.
Exactement. Puis là, la maison de Nelson, dans le fond, est encore ouverte pour les visites.
Hein?
Puis elle a été conservée le plus proche de son original.
Ça veut dire avec les murs brûlés.
Ouais.
Hi, c'est glauque!
Puis, dans le fond, c'est le petit-fils donc, de Nelson, donc un monsieur que c'est son grand-père, Nelson.
Mm-hmm.
Si je comprends bien, je fais bien ma mathématique. Puis là, lui, il veut vraiment comme conserver la maison. Puis on voit encore le trou dans le plancher. Où est-ce que ça l'a brûlé? Puis où est-ce qu'il y avait le corps de Nelson?
Aïe, aïe, ça l'a fait un trou.
Ouais,
ah, ben c'est
ouais.
Son corps est en feu, ouais.
Puis là, il y a comme une petite histoire autour de ça. On voit encore l'horloge originale au mur. Puis, selon la légende, elle aurait arrêté à minuit pile l'heure estimée de la mort de Nelson.
Aïe, aïe.
Ouais, fait que tu sais, ils sont arrivés vers 11h30. Ça s'est passé quand même vite.
Il est pas hey, quand même.
Il serait pas mort sur le coup. Il y a un gars qui a dit qu'il l'avait vu debout. Puis, boum, à minuit, c'est la légende dit que c'est là qu'il serait décédé.
Oui, oui, oui.
Fait qu'on peut dire que, tristement, ici, le livre du Power, on n'aura pas sauvé Nelson. Parce qu'il disait, hein? Tu ne pourras brûler dans un camp.
C'est vrai.
Quiconque porte ce livre sera protégé.
Pas d'ennemis et tout.
Ouais. Mais fallait-tu qu'il l'aille sur lui?
Peut-être qu'il était dans sa table de chevet, c'est peut-être ça la nuance.
Mais il me semble, de ce que je comprends, c'est que tant que tu l'as en ta possession, là.
Ouais.
Tant que tu l'as.
Moi, c'est de même, je l'aurais compris, mais tu sais, bon. Mm-hmm. Il y a quelque chose, par contre, que je trouvais qui était intéressant, d'inexplicable quand même autour de tout ça, c'est que le feu s'est éteint tout seul dans une vieille maison de bois, là. Une genre de maison de bois de grange, là, avec de l'huile puis tout, puis le feu a pogné.
C'est vrai.
Puis s'est éteint.
Mais il a quand même brûlé juste assez longtemps pour tuer Nelson.
Ouais, ben, Nelson était comme déjà pas mal.
Un coup de bûche à la tête. Là.
Il aurait succombé à ses blessures. Il l'avait étranglé après, tu te souviens.
Puis on sait, tu sais, les chaises à l'époque, là, c'était pas des petites chaises en plastique. Là.
Non.
Une grosse chaise de bois massif.
Ouais.
Puis un coup de bûche. Là.
Fait que peu importe ce qui a tué Nelson, le feu, l'hémorragie ou l'étranglement. Le livre l'aura pas épargné, mais le feu se sera quand même éteint tout seul.
Ouais, c'est peut-être justement à cause du livre.
C'est ça que je me dis. Ça, puis l'horloge, il y avait comme une petite affaire inexpliquée, puis un petit mystère de pow-wow qui régnait.
Probablement. En même temps, si l'horloge, ben bon, elle a fondu un peu, ça a foqué le mécanisme à l'intérieur, peut-être.
Elle a surchauffé, puis elle a arrêté.
Ben, peut-être. Ben.
Fait que c'est ça qui met fin à mon histoire.
Ben, c'était fucked up.
Hein? C'était comme vintage.
Oui.
C'était comme...
Malédiction.
Ouais. Je les vois toutes les gens avec des petits képis sur la tête.
Des képis?
Je sais pas. Des petits chapeaux.
Des petits chapeaux semi-casquettes, là?
Des petits chapeaux comme dans Peaky Blinders.
Ah, je comprends.
Je sais pas si les années concordent, j'ai aucune idée.
Ben ouais. Moi, ma question, c'est tu sais quoi?
Vas-y donc.
Est-ce que grand John Blymire, il a vraiment vu une sorcière?
Nellie Knoll?
Ouais.
Tout le monde connaissait Nellie Knoll, ça a l'air.
Ah, ouais?
Ouais, fait que c'est sûr qu'il est allé la voir.
Ça l'a peut-être, par exemple, participé à son délire de paranoïa. Ouais. Là.
Mm-hmm. Est-ce que Nellie Knoll lui a dit que c'était l'affaire de la photo qui est apparue dans sa main et tout, là? Ça, moi, je trouvais que c'était anguille sous roche. Bref.
Faire apparaître.
Qu'est-ce qu'elle lui a dit? On le saura pas. En plus, qu'elle avait déjà 70 ans. Ils l'ont pas invité au...
Au documentaire.
Pas au documentaire, mais quand ils ont fait les procès.
Ah non!
Parce qu'ils ont comme... Ils sont allés en route vers la folie, là. Ils n'ont pas mélangé vraiment le... Ben, ils ont fait... Ils ont parlé un peu du powwow, puis c'est ça qui causait comme... Ça avait causé beaucoup de remous dans le village parce que pour eux, dans la ville de Pennsylvanie, tu sais, c'était rendu plus moderne, tu sais. Powwow, uh-huh. c'était des vieilles affaires de folklore, là.
Ouais.
Fait que là, il y avait comme un genre de malaise avec... Voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé, genre, c'est des vieilles affaires de sorcières, puis là, on est en... Fait que, ouais,
on n'est plus là.
On n'est plus là, c'est ça. C'était comme weird. On sentait un petit malaise. On savait, ouais, les gens savaient comme pas sur quel pied danser. Là. Ouais. Puis la religion qui se mêlait à ça. Fait que...
Ouais, les nouvelles croyances et tout. Puis est-ce que, mettons, quelqu'un qui est powwow, qui pratique le powwow, est-ce que ça se transfère de génération en génération puis que les filles de Nelson...
C'était pas des powwow queens.
Non? Puis son petit-fils, c'était-tu un powwow king?
Ben non, il dit qu'il faisait pas ça.
Ah, OK.
Mais il avait le petit livre, il avait trouvé une copie.
OK, il a pas retrouvé lui qui aurait peut-être pas brûlé quand il a vu dans la maison, hein? J'aurais aimé ça savoir si la copie avait brûlé, puis...
Je pense vraiment là, que le plan a chiré puis qu'ils ont même pas checké pour le livre.
Ben non, ils ont dérapé, ils ont vu qu'ils ont fait un mauvais coup puis ils ont crissé leur camp, ils ont fait du saccage, ils ont défoulé, là.
C'est ça. Puis ils se sont dit, si on brûle tout... Tout va lever. Mais là, il fallait même qu'ils prennent la mèche puis qu'ils la mettent 8 pieds sous terre. Ils ont vraiment botché.
Ils ont floppé.
Ouais. Ils ont botché, là. Tu sais?
Ils se sont sûrement dit la malédiction est plus grande que nous, considérant qu'il y a plusieurs personnes qui en souffrent. La famille aurait colt, le petit John, le grand John. Fait que là, il faut vraiment faire un gros coup d'éclat.
Moi, ça me fait croire que les intentions du grand John Blymire, c'était même. Ça n'avait pas rapport, là.
Non.
Mais non.
Moi, je pense que c'était juste par pure malice.
Très fort, probablement, c'est ça qui est arrivé.
Fait que voilà.
Ben merci, Kat. Beau travail pour ton baptême.
Très intéressant.
Ouais.
J'espère que les gens vont avoir comme pas trouvé ça trop mêlant.
Ben non.
Puis pas trop de radotage, parce que des fois, je parle beaucoup de le powwow, c'est quoi.
Ben non, mais on connaît pas ça, fait que c'est normal que tu nous l'expliques, parce que moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis le documentaire non plus. On va laisser un lien pour le documentaire, si vous voulez l'écouter. Moi, je vais peut-être l'écouter aussi, je pense.
On devrait checker ça.
Il est sur YouTube?
Non, il faudrait que je m'abonne à un... Ouais, c'est vrai. C'est un peu à chier, mais genre, il y avait tellement pas beaucoup d'informations. Il fallait que je m'abonne à un genre de Netflix. Là. Je sais plus c'est quoi le nom.
C'était Crave.
Non.
Disney Plus.
Merci, Catherine, pour ton histoire. C'était fort intéressant.
Ouais, vraiment.
Au moins, je pense que vous allez dormir pareil ce soir.
Oui. Ouais.
Avouez, hein? Pas trop.
Mais crains pas. La note d'aujourd'hui, là, si vous achetez une maison et ça pue acheter la peau, demandez à l'inspecteur de faire sa job comme il se doit, parce que en bonne et due forme.
C'est la chose à retenir pour aujourd'hui.
Parfait. Alors, je vous dis au revoir.
Au revoir. Bye bye.
Ciao. Bye.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies.
Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.